Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission et j'ai le plaisir ce matin de recevoir Madame Pascale Goutani, référente Mémoire et Citoyenneté de l'Académie de Dijon. Vous allez nous parler aujourd'hui d'un personnage qui finalement n'est pas si connu que ça, alors je pense qu'il le mériterait. Bon, c'est un point de vue personnel, mais je me le permets. Monsieur Adi Steg, qui a un parcours extraordinaire et vous avez intitulé un des documents avec lequel vous avez travaillé qui s'appelle « Un parcours juif, une histoire française ». Un titre qui dit beaucoup de choses. Donc, je vous remercie de nous présenter ce personnage tellement important dans la vie de la République française.
Bonjour et merci de m'avoir invité et de me permettre de parler d'Adi Steg. Donc, Adi Steg, dans le Télérama du 12 février, qui sortira demain, il est qualifié d'homme exemplaire. Et ça rejoint un petit peu le titre, donc « Un parcours juif, une histoire française ». C'est un documentaire d'Isabelle Weckstein qui vraiment a voulu montrer l'exemple de cette double identité qui est revendiquée, qui est, pour laquelle il s'est énormément engagé. Donc à la fois quelqu'un qui revendiquait sa judéité et qui se disait amoureux de la France et amoureux de la République française. Donc c'est un personnage peu connu et comme vous dites qui mériterait de l'être, ne serait-ce que parce que c'est son rapport fait au ministre de la Santé de l'époque qui a permis l'organisation que nous connaissons encore aujourd'hui des urgences françaises, hein, qui est une des organisations reconnues comme excellente. C'est un médecin de renom, hein, ça a été le médecin de plusieurs présidents de la République française, après pourtant un parcours, une jeunesse qui commençait dans la difficulté, mais il a toujours voulu servir la France qu'il avait accueillie quand il avait 7 ans. Venant de Tchécoslovaquie de l'époque, ça serait l'Ukraine aujourd'hui, hein, sa famille ayant fui les persécutions juives dans son pays dans les années 30. Il est donc arrivé en France.
Alors, quels ont été ses principaux combats en tant que médecin? Donc vous avez parlé de la création des urgences. Je crois qu'il était urologue.
C'était un grand urologue,
un acteur important de la santé publique. Du développement de la santé publique, et notamment des urgences, vous en parliez, je crois, aux côtés d'ailleurs de Simone Veil, ils ont fait un parcours ensemble, mais sur le plan des institutions, des rapports entre le monde juif et les institutions de la République.
Alors il a été très impliqué, très actif dans différentes associations, il a été président du CRIF à une époque, et il n'a jamais oublié finalement aussi ses premières années en France, et c'est là aussi sur ce sujet-là que je voudrais revenir. Comme je vous l'ai dit, il est arrivé tout jeune, il est arrivé un petit peu avant la guerre, il a porté l'étoile jaune dans le lycée Voltaire où il était élève à Paris, et son père a été déporté à Auschwitz. Et lui, grâce à des justes parmi les nations, il a pu échapper à la rafle du Veldiv et il est rentré dans la résistance. Il a été dans les FFI, dans le Gers, hein, où il était arrivé à passer avec sa sœur pour échapper aux rafles. Donc c'est quelqu'un qui a commencé très jeune les combats. Hein. C'est un adolescent qui rentre dans la résistance et qui, tout le reste de sa vie sera toujours donc, dans des combats pour la santé, hein, dans la commission Matteoli, et dans le documentaire, hein, qui est assez exceptionnel, qui croise à la fois des archives privées, des archives de l'INA, donc des archives publiques, qui ont beaucoup d'interviews, hein, comme Robert Badinter, qui était un de ses grands amis, qui témoigne de son action. Dans ce documentaire, il y a une place assez importante qui est faite à une question toujours d'actualité. Il a été auditionné dans les années 80 sur le code de la nationalité. C'est Jacques Chirac, qui était Premier ministre à l'époque, qui avait voulu donc une grande enquête sur ce qu'est la nationalité. Et en tant que étranger, venu en France, devenu français, hein, amoureux de la France et fidèle toujours aussi à son origine d'Europe de l'Est, il a témoigné. Dans ce documentaire, il y a tout un passage extrêmement intéressant sur les débats de cette époque-là qui reste très 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 actuel. Adi Steg, c'est vraiment une vie de combat, hein, une vie entière de combat où il lit toujours la France, hein, et sa judéité et tout l'attachement, de toute façon, à toute l'histoire. Il a beaucoup œuvré auprès de Simone Veil, en effet, sur le développement de l'enseignement de la Shoah, hein, en étant un des membres de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que présidait à cette époque-là Simone Veil.
Oui, à sa façon, après la tragédie des années 40-45, il a contribué, je crois, à redonner une vitalité au judaïsme français qui était évidemment par terre pour des tas de raisons, notamment cette tragédie, mais aussi la trahison des élites avec le mouvement de Vichy. Hein, donc il a voulu aussi travailler aux côtés des républicains qui redonnaient à la France une nouvelle façon de...
Tout à fait, il était très, très, très attaché à la République française, à nos institutions et toujours disponible pour œuvrer dans toutes les institutions, dans toutes les occasions qui lui étaient proposées. Il a traversé presque tout le siècle, hein. Il est né en 1925 il est mort en 2021. Donc dans ce documentaire qui retrace une grande partie de sa vie en 52 minutes, hein, donc forcément certaines questions sont vues plus rapidement, on a vraiment l'empreinte de quelqu'un qui s'est attaché à toutes les questions, hein, qui concernaient la nation française. Donc c'est... Et ce documentaire est à disposition de tous les établissements, hein, scolaires, universitaires, les centres de formation, hein, du public comme du privé sous contrat. L'Académie de Dijon a eu la grande chance d'être en relation avec cette réalisatrice qui nous a donc donné les droits pour 5 ans, de façon à ce que tous les établissements puissent les utiliser. Et c'est relayé par le site du ministère de l'Éducation nationale sur EduSchool. Donc on trouve très facilement le lien, non seulement pour voir ce documentaire qui peut intéresser tout le monde, pas seulement les scolaires, mais qui a une vraie leçon aussi pour les élèves, mais aussi un dossier pédagogique, hein, qui est fait pour guider les professeurs dans l'utilisation qu'ils peuvent faire de ce documentaire, hein, donc je vous dis, sur les premières parties de sa vie, donc la période de la guerre, mais aussi sur toute l'histoire, finalement, de la République qui suit, hein, qui, jusqu'à son décès en 2021, c'est quelqu'un qui a toujours combattu pour la République.
Alors c'est vrai que c'est aussi un homme, vous l'avez rappelé, avec son parcours de juif, qui était très engagé dans les institutions communautaires, et qui a fait en sorte de contribuer à l'émigration des juifs soviétiques qui étaient persécutés, qui a contribué à un accueil de qualité des juifs venant d'Afrique du Nord dans la précipitation, et notamment après la fin de la guerre d'Algérie. Il était président de l'Alliance israélite universelle qui a porté des valeurs et surtout des valeurs d'éducation dans le monde juif, dans l'ensemble du monde. Il était pendant très longtemps, je crois, en l'occurrence de 85 à 2001. Donc on voit aussi que c'est quelqu'un qui avait une vision humaniste, universaliste du judaïsme et de la vie en société.
Tout à fait. Il était très attaché à Israël, hein, par exemple, mais il était aussi très actif dans les amitiés judéo-chrétiennes et les amitiés judéo-musulmanes, parce qu'il pensait qu'en fait, c'est l'humanité, hein, qui compte. C'était vraiment quelqu'un qui était pour faire du lien, hein, et pour espérer que le vivre ensemble se développe le plus possible en France.
Oui, à un moment, au moment où nous parlons, nous sommes en 2025, à un moment où il y a une résurgence très forte de l'antisémitisme, beaucoup de confusion, beaucoup d'inquiétude. Et c'est vrai que son message, ses écrits, cette façon de travailler et de faire des liens entre les différents segments de la société sont quand même des choses qui manquent, en tout cas qu'il faudrait
réhabiliter.
Tout à fait,
c'était quelqu'un de dialogue, c'était quelqu'un qui pensait que le pire était derrière nous et qu'il fallait absolument aller vers un progrès, hein, humaniste dans nos sociétés, qui a œuvré toute sa vie. Et ce documentaire donc, permet vraiment pour les élèves d'étudier une partie de leur histoire, mais aussi de réfléchir à des grandes questions de la citoyenneté, des grandes questions sur ce qu'est une nation, sur ce que les différences, comment les différences enrichissent finalement la nation. Et c'est pour ça qu'on était très, très content de pouvoir le mettre à disposition des profs et des élèves, parce qu'à tout niveau, hein, collégiens et surtout lycéens, parce que ça croise encore davantage les programmes scolaires de lycée dans plusieurs moments des programmes, c'est vraiment une possibilité de les faire réfléchir avec un exemple. Hein. C'est pour ça que ce titre d'homme exemplaire qui est mis dans Télérama me paraît vraiment très très bien. Ce n'est pas un exemple au sens d'un modèle à suivre forcément. On n'arrivera pas tous à être à Distègue. C'est un destin extraordinaire. C'est une force de caractère aussi extraordinaire. Mais c'est un exemple de tout ce qui est... tout ce qui est possible et qui croise beaucoup de questions sociales de notre société.
Et notamment le soin qui était la qualité des soins qui est une de ses principales préoccupations.
Oui.
Il avait un métier, il continuait son travail malgré cet engagement dans différents domaines.
Tout à fait, c'est un urologue réputé international et pour autant sa préoccupation c'était que les urgences soient accessibles vraiment à tous. C'était l'idée qu'on soit tous à pas plus d'une demi-heure hein, d'un service d'urgence, que l'accueil soit le meilleur possible. Il avait vraiment cette préoccupation de chacun.
Alors dans le document pédagogique que vous nous avez confié, qui est très bien fait, je vais me permettre de citer une phrase qui résume ce que vous avez dit et que je trouve très forte, quelque chose qui a à voir avec ces différents engagements. Et vous parlez de l'ambition de Distègue, et je cite hein, ce qui est écrit dans votre dossier pédagogique, « Faire de l'éducation un moteur essentiel dans la diffusion des valeurs universelles d'égalité et de fraternité pour en faire un outil d'émancipation contre la haine et l'obscurantisme. » Je crois que ça résume bien
Ça résume bien sans doute l'ambition d'Distègue et l'ambition qu'on peut avoir à l'école hein, pour faire société.
Oui, alors ça fait le lien avec votre métier de référente de l'Académie de Dijon et le travail qui a été fait dans cette académie concernant ce documentaire et sa diffusion, le documentaire d'Isabelle Weckensteigne, qui retrace donc son parcours et que vous avez croisé évidemment avec les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. En tout cas, vous avez contribué à ce que ce film soit accessible et diffusé très largement dans l'éducation nationale, mais évidemment pour toute personne qui veut s'y référer.
Tout à fait, tout à fait. On a les contrats, c'est toujours un petit peu long, mais on voulait absolument que ça puisse aboutir pour cette date symbolique, hein, même si le partenariat avec les sociétés de production est pour 5 ans. Donc ça ne se résume pas, on ne parle pas que ce jour-là des questions importantes, mais c'était cette sortie et C'est vraiment, je pense, quelque chose d'extrêmement important d'incarner, de toute façon, l'histoire pour les élèves à partir de personnages et ne pas rester sur quelque chose qui leur paraît trop lointain, puisque maintenant le temps passe et 80 ans, c'est loin hein, pour les jeunes élèves. Et des figures comme certaines sont très connues, hein, comme vous avez cité tout à l'heure Simone Veil, continue à permettre d'incarner l'histoire, mais à Distègue pourrait avoir une place très importante également aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est un exemple sur différentes périodes de notre histoire.
Je vous propose de rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs le documentaire et comment on peut y accéder. Hein, à propos donc de Distègue, dont je rappelle qu'il est né en 1925 et mort en 2021. Rappelez-nous comment nous pouvons accéder à
Alors,
ce documentaire.
Alors, pour accéder, c'est le site du ministère de l'Éducation nationale sur EduSchool. Hein, vous trouverez le lien hein, qui renvoie à l'Académie de Dijon pour accéder au documentaire et au dossier pédagogique éventuellement. Bien sûr, le dossier pédagogique, c'est fait pour un public de professeurs, mais il y a aussi des repères chronologiques, des explications sur la vie d'Distègue qui peuvent intéresser toute personne qui souhaiterait en savoir un petit peu plus et qui voudrait avoir ses repères de visu.
Madame Goutani, je vous remercie. Donc, vous êtes venue parler de Distègue, pour lequel un documentaire de très grande qualité a été produit et qui s'appelle Distègue, un parcours juif, une histoire française. À bientôt sur Shalom Bourgogne dans votre émission Histoire, mémoire et transmission.